France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Deuxième émission aujourd'hui sur le Credo de Nicée-Constantinople, texte devenu normatif dans la vie de l'Église. Nous sommes en compagnie de Michel Stavrou, doyen et professeur de théologie dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Michel, bonjour.
Bonjour.
Au cours de la première émission sur le Credo de Nicée-Constantinople, nous avons parlé de la partie de ce texte rédigé à Nicée en 325. Voici maintenant le moment pour parler du complément établi à Constantinople en 381 au deuxième concile œcuménique. Qu'en est-il au fait ?
Il faut savoir déjà que ce texte du symbole dit de Nicée-Constantinople est un texte mystérieux sur lequel les historiens n'ont pas une connaissance absolument assurée de son origine. On pense généralement, mais il y a différentes théories, mais disons que les théories les plus récentes considèrent en fait que ce texte n'a pas été produit directement lors du concile de Constantinople, mais repose sur un texte intermédiaire entre le symbole de foi de Nicée et celui de Constantinople, un texte intermédiaire qui serait passé par des réunions théologiques qui auraient eu lieu à Rome et qui seraient passées également à Antioche. Parce que nous avons des attestations, notamment par les pères antiochiens, d'un concile qui s'est réuni en 382 et qui fait état de ces témoignages. Donc, je pense que le texte de Nicée a été mis en œuvre, utilisé, semble-t-il, déjà dans les credos utilisés pour le baptême, donc credo baptismaux, et qu'il a été ensuite, en quelque sorte, augmenté d'un certain nombre de précisions. Il est arrivé sous une certaine forme au Concile de Constantinople, et les pères de Constantinople, donc en 381, l'ont enrichi, et ça a donné le résultat que nous connaissons, qui va disparaître à nouveau, mystérieusement, et qui réapparaît seulement au Concile de Chalcédoine en 451. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'incertitudes au plan historique, mais néanmoins, ce texte, il est là dans notre pratique depuis Chalcédoine. Il est maintenant universel et il nous dit beaucoup du progrès, de la prise de conscience du mystère trinitaire.
Mais on a quand même le sens de la protection de ce texte. Dès Éphèse, le concile de 431, on dit qu'il ne faut pas changer ce texte.
Alors, le texte d'Éphèse, il ne dit pas le texte de Constantinople, il dit le concile de Nicée.
Oui, oui, oui.
Il fait référence, pardon, au symbole de Nicée. Mais il faut dire aussi que c'est très complexe parce que souvent, les pères évoquent le symbole de Nicée et ils déroulent le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, pour eux, il n'y a pas d'opposition, il y a une sorte d'extension dans la mesure où chaque fois, c'est un concile inspiré qui s'est prononcé, donc sous la motion du Saint-Esprit.
Il faut aussi rappeler que le IVe siècle est jalonné de conciles locaux réunis par les empereurs, successeurs de Constantin, pour essayer de faire passer des dogmes qui n'avaient pas été vraiment bien reçus par toutes les populations chrétiennes. Et cette fois-ci, on va vers un vrai résultat parce qu'on voit que ce texte a traversé l'histoire de l'Église et est toujours là pour tous les offices, en tout cas dans l'Église orthodoxe, mais les autres églises, je crois, et l'Église de Rome, par exemple, utilisent aussi ce texte.
Et alors justement, oui, le contexte dans lequel a émergé ce texte, c'est la crise qui a suivi la réception de Nicée et à laquelle on a fait allusion dans la dernière émission. Le fait qu'il était très difficile de recevoir ce terme de consubstantiel ou homoousios et qu'il y avait au contraire de très fortes réactions de la part des néo-ariens, c'est-à-dire la nouvelle génération d'ariens avec A.S. et Eunome, qui au contraire disaient non seulement qu'il n'est pas consubstantiel au Père, mais que ce fils de Dieu, il est dissemblable du Père, anomios, les anoméens. Il y a quelque chose qui se passe, un coup de tonnerre, c'est en 379, le changement d'empereur à la tête de l'Empire romain, et il s'agit maintenant de Théodose, et Théodose est un néo-nicéen, c'est-à-dire il est pour la foi de Nicée, et il convoque un concile dans lequel vont intervenir des théologiens qui eux aussi sont des adeptes de la foi de Nicée, et notamment, tout particulièrement, les pères cappadociens. Et notamment les deux Grégoire, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, qui vont s'appuyer aussi sur le travail d'un père de l'Église éminent qui est Saint Basile le Grand, Saint Basile de Césarée de Cappadoce, qui a laissé une œuvre impressionnante pour la défense de la foi en la divinité du Fils et aussi en celle du Saint-Esprit. Parce que là, c'est le contexte complémentaire, c'est que au IVe siècle, dans les années 350, de plus en plus de personnes contestent, dans la lignée de la critique arienne de la divinité du Fils, contestent la divinité de l'Esprit-Saint. Un certain Macédonius, archevêque de Constantinople, mais également des gens en Égypte qui s'appellent les Tropiques et d'autres qu'on surnomme les Pneumatomaques, c'est-à-dire les combattants de l'Esprit. Donc ça amène un nouveau défi à relever, celui de la question de la divinité de l'Esprit. Et le même Athanase qui avait défendu la divinité du Fils, qui a été exilé 5 fois durant sa vie, va défendre aussi la divinité du Saint-Esprit. Et il va le faire avec des arguments essentiellement, je dirais, sotériologiques. C'est-à-dire que cet Esprit-Saint, s'il n'est pas vraiment Dieu, eh bien, il ne peut pas, à ce moment-là, assurer notre salut. Et donc, cette vie dans l'Église qui nous est proposée en Christ dans l'Esprit, elle est totalement vaine.
Si vous voulez bien, pour commencer maintenant le commentaire sur le texte, les changements qui sont apportés sur le texte de Nicée, de 325. Il avait parlé du Père et du Fils de manière assez explicite.
Alors, concernant le Père, nous avons très peu de changements, sinon la précision « Créateur du ciel et de la terre ». De toutes choses visibles et invisibles. Donc évidemment, le ciel et la terre dont il est question déjà dans Genèse 1.1 et dans le commentaire de Saint Basile le Grand, il s'agit symboliquement, pour ce qui est du ciel, de l'ensemble de la créature immatérielle, c'est-à-dire les anges, et la terre désigne l'ensemble du cosmos matériel. Donc c'est une précision qui est apportée. Et puis nous avons donc tout un ensemble de précisions qui sont apportées à la foi en Christ. Nous avons la précision qui, pour nous hommes et pour notre salut, est descendue des cieux. Donc les cieux, le terme les cieux est introduit au pluriel pour souligner qu'il est descendu de sa condition divine. C'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Donc là, vous voyez l'intervention de la personne du Saint-Esprit et de la Vierge Marie qui est souligné dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Luc, et qui est rappelé pour souligner que cette incarnation du Fils, pour qu'elle ait lieu, il faut aussi la participation du Saint-Esprit. Et ça, je dirais que toute l'œuvre des pères antiochiens, mais aussi cappadociens, c'est de rappeler face à un certain christomonisme, comme on dit, c'est-à-dire de ne considérer dans l'économie du salut que le Fils, est contrebalancé, en fait, chez ces auteurs plutôt de l'Orient chrétien, c'est-à-dire du contexte sémitique, contrebalancé par la mise en valeur du rôle essentiel de l'Esprit-Saint dans le salut. Évidemment, l'un n'est pas contre l'autre, mais l'un va de pair avec l'autre. Il n'y a pas de descente du Christ sans le Saint-Esprit. Et je pense que c'est très fort que ce soit rappelé dans le texte du Credo. Et puis un peu plus loin, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Donc on rappelle la croix, c'est important parce que c'est le sens même de la compréhension donc de cet exploit de mort-résurrection du Christ, elle passe par la croix. Et la précision sous Ponce Pilate, elle est extrêmement importante face à l'hérésie docète. Les docètes sont ceux qui contestent que Jésus soit réellement venu dans le monde. Ils pensent qu'une sorte de passage, en quelque sorte comme les métamorphoses des dieux, vous savez, dans l'ambiance religieuse païenne. Or, cela nous atteste que Jésus fait partie de l'histoire humaine. L'histoire est en quelque sorte maintenant centrée sur la venue une fois pour toutes du Fils de Dieu. Et donc, c'est extrêmement important de le souligner.
Volonté de dater, donc, précisément.
Voilà, volonté de dater dans l'histoire. Qu'il a souffert et qu'il a été enseveli. Le enseveli pour bien attester qu'il est mort, parce que enseveli, c'est descendre sous la terre. Et dans cette vision du monde, évidemment, des premiers siècles, le lieu des morts, c'est sous la terre. Qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc c'est bien attesté dans les Écritures, d'abord chez les prophètes, et ensuite vérifié par l'Évangile. qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père. Le siège à la droite est aussi une attestation de la divinité du Père, parce que être à la droite du Père, ça veut dire être à son niveau ontologique. Il est remonté, ressuscité et porteur de sa chair créée, donc avec une humanité déifiée. Et on avait insisté la dernière fois sur ce présent, palinerkomenos, qui revient dans la gloire, juger les vivants et les morts. Ça, c'est important parce que ça montre que le Christ n'est pas encore venu au dernier jour, mais qu'il est déjà là, secrètement. C'est ce que le père Georges Florovski appelait l'eschatologie inaugurée, dans une belle formule saisissante. Pas encore accomplie, mais déjà inaugurée. Et puis, enfin, dont le règne n'aura pas de fin, contre ceux qui prétendaient, donc un certain millénarisme, qui prétendait qu'il y aurait un règne de 1000 ans du Fils de Dieu et qu'ensuite il remettrait sa royauté au Père. Et le texte dit bien, il règnera éternellement.
Donc évidemment, la première partie de ce texte, ou les deux parties si on veut, celle qui concerne le Père et le Fils, revue et corrigée si je puis dire, en tout cas complétée par Constantinople en 381. Notre pause donc musicale maintenant, de nouveau une version musicale du credo. Dans la tradition byzantine, le credo en église n'est pas chanté, il est simplement récité. Mais cette année, vu l'anniversaire, je rappelle que ça fait 1700 ans depuis la convocation du concile de Nicée I en 325, l'église de Grèce a demandé au moine Théophane du monastère Atonite Vatopédi de faire une composition musicale byzantine sur ce texte-là. Et nous en écoutons un extrait. Après cet extrait du credo de Nicée-Constantinople chanté par les moines de Vatopédi au Moatos, nous revenons à notre discussion avec Michel Stavrou sur le texte de Nicée-Constantinople, le credo de Nicée-Constantinople, deuxième émission aujourd'hui sur l'apport de Constantinople. Alors Michel, nous nous souvenons, Nicée 1 n'avait dit que « est l'Esprit Saint ». Je crois aussi à l'Esprit Saint, point barre. Et voilà que maintenant, il y a un texte entier, si je puis dire, qui vient compléter ça, expliciter ce qu'est l'esprit, parce que comme vous nous avez dit, évidemment, on met en doute la divinité de l'esprit. Et puis, évidemment, quelques phrases finales qui sont très importantes.
Alors, une série de qualités qui sont donc en apposition de l'Esprit Saint. Seigneur vivifiant, zoopion en grec, littéralement, vivificateur, celui qui fait la vie. Donc c'est vraiment une qualité, on peut dire divine, on ne peut pas le dire autrement, qui procède du Père, ça vient évidemment de l'évangile de Jean, je vous enverrai l'Esprit Saint dit Jésus, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez que le texte n'utilise pas cette notion de consubstantialité qui avait été utilisé pour dire la divinité du Fils. Ici, c'est le résultat, je dirais, des travaux de saint Basile le Grand, qui ne veut pas réouvrir la querelle du langage théologique, qui avait été contesté pendant des décennies, comme on l'a vu, pour le Fils, et qui veut utiliser un autre langage, un langage qu'on peut qualifier de doxologique, c'est-à-dire la manière dont on prie l'Esprit-Saint. On le prie comme le Père et comme le Fils, on le glorifie, témoigne de ce que, réellement, il est Dieu, comme le Père et comme le Fils. C'est ça, si vous voulez, la démonstration, la pointe de ce langage doxologique qui est utilisé.
Et comme ça, Basile met tout au même plan, évidemment.
Exactement.
Les trois personnes, oui.
Exactement. qui a parlé par les prophètes. Donc c'est l'attestation, effectivement, qu'avant la nouvelle alliance du Christ, il y a déjà des annonces qui sont faites par les prophètes et qu'elles sont accomplies en lui. Et puis, nous avons ensuite la foi en l'Église. Ça, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas le moindre doute dans le texte grec. Je dis cela parce que dans la traduction latine, il y a des débats. Faut-il dire « je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique » ou « je crois à l'Église » ou « je crois que l'Église est une sainte catholique et apostolique » Je sais qu'il y a des débats parmi les théologiens catholiques, mais eux, ils s'arrêtent en fait à la traduction latine. Nous voyons que c'est exactement le même « eis » qui s'applique pour les personnes divines, de la même façon pour l'Église. Et croire en l'Église, ça ne veut pas dire évidemment croire en une institution infaillible, pas du tout, mais c'est croire dans ce corps du Christ, c'est-à-dire à cette divino-humanité que nous recevons du Christ dans l'Esprit-Saint, croire que le mal ne prévaudra jamais sur son Église. Et puis nous avons l'affirmation de quatre qualités de l'Église, cette unité, sainteté, catholicité, c'est-à-dire plénitude, et apostolicité, c'est-à-dire qu'elle reçoit son être et sa vocation de celui qui est l'apôtre par excellence, c'est-à-dire le Christ, qui est l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé du Père, et en même temps, cette Église, elle est toujours en mission. Donc, ça me semble très important, ces quatre qualificatifs qui nous disent beaucoup de choses du mystère de cette Église dans lequel nous sommes amenés à vivre.
Peut-être un mot sur ce terme catholique qui évidemment a changé de sens actuellement et on entend très souvent autre chose quand on le dit, évidemment, un sens cultuel.
Bien entendu, il ne faut pas le prendre au sens simplement confessionnel, puisque aujourd'hui les églises orthodoxes de par le monde récitent tout ce credo et se considèrent comme l'église catholique. Il faut le prendre au sens premier, c'est-à-dire une église selon le tout, kata holon, c'est-à-dire une Église qui reçoit cette divino-humanité du Christ dans l'Esprit, cette plénitude de la vie divine qui nous est offerte.
C'est donc un terme qui n'est pas quantitatif, c'est plutôt qualitatif, c'est ça ?
Totalement qualitatif, qui implique sûrement une universalité, mais qui est beaucoup plus profond et large que l'universalité géographique à laquelle il a été assimilé seulement à l'époque d'Augustin et dans un contexte précis, la querelle des donatistes.
Et nous continuons par le baptême. Il est question de baptême aussi.
Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés parce qu'effectivement, il y avait des fidèles qui passaient d'une église locale à une autre et qui, parfois, se faisaient rebaptiser. Et il est bon d'avoir cette attestation face à des choses que l'on observe parfois, encore aujourd'hui, dans les passages d'une église à l'autre, rappeler justement la confession ferme en un seul baptême. On reçoit le passage à la vie éternelle à travers, justement, cette mort-résurrection en Christ. Et cela ne se fait qu'une fois. Après, évidemment, il faut la recevoir, cette nouvelle naissance, qui parfois a lieu lorsqu'on est un petit enfant ou quelqu'un qui n'est pas encore conscient et la confession de foi a lieu par le parrain ou la marraine. Et on peut passer dans sa vie, comme disait souvent Olivier Clément, on peut passer par des morts-résurrections. Hein. Donc d'une certaine manière, ce sont des rebaptisations, mais en tout cas pas de manière liturgique.
Et il faut aussi se souvenir des paroles de saint Paul qui dit que nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Hein,
c'est pas vrai. C'est exactement le sens du mot baptême, mais que nous avons oublié.
Oui.
Et parfois, dans la liturgie, évidemment, ce n'est pas assez montré.
Oui, tout à fait. Et évidemment, cette attente, pour terminer, la résurrection des morts et la vie du siècle à venir.
Oui, c'est important de souligner cette espérance. Parce que nous sommes dans un monde qui est marqué quand même par la violence, une certaine désespérance. Et les chrétiens sont obligés en quelque sorte à l'espérance. Nous attendons la résurrection des morts, c'est-à-dire la venue du royaume. Voilà. La résurrection des morts, c'est la fin justement du triomphe apparent du mal et de la mort.
Donc Michel, si nous voulons faire une conclusion des deux émissions, évidemment, sur le texte de Nicée-Constantinople, mais en particulier sur l'apport de Constantinople par rapport à Nicée. Est-ce qu'il a changé vraiment profondément des choses? Est-ce que ça a donné une vision différente ou il a simplement, confirmé des choses qui étaient déjà dites?
Bien entendu, il a confirmé ce qui était dit au premier concile œcuménique. Il a apporté un certain nombre de précisions. On a vu, en nommant l'Esprit-Saint et la Vierge Marie participant donc de l'économie du salut par le Christ et dans le Christ. Mais surtout, il a apporté des précisions extrêmement importantes sur la divinité du Saint-Esprit qui était indispensable. Donc c'est un ajout vraiment substantiel et définitif. Et on peut dire que c'est à partir du Concile de Constantinople que nous avons une attestation bien consciente de l'existence d'une divine trinité. Avant, il y avait ce terme de trinité qui avait été introduit au IIIe siècle, aussi bien dans le contexte latin que grec, mais c'est à partir de Constantinople qu'il y a une divine trinité qui est attestée consciemment et vécue également dans la liturgie.
Ça va être le mot de la fin pour le texte de Nicée-Constantinople. Donc, et pour terminer, je rappelle qu'à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée I, qui est célébré cette année par l'Église, il y aura fin novembre, donc dans quelques jours, à Nicée même, actuellement la ville d'Isnik en Turquie, une prière œcuménique avec la participation du pape Léon, du patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople, ainsi que de plusieurs autres hauts dignitaires des églises chrétiennes, notamment les patriarches orientaux, je crois, ce qui donnera une vision tout à fait œcuménique et évidemment une renaissance, si je puis dire, évidemment, dans le souvenir, mais aussi la leçon de Nicée et de ce premier concile œcuménique. Michel Stavrou, je vous remercie beaucoup. C'était le Credo de Nicée-Constantinople, deuxième partie avec Michel Stavrou. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Nicolas de Pagraf. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.